Ah, bah, c'est tout simplement une hallucination collective.
Votre chronique Famille Numérique, présentée par Famille Rurale de l'Ain.
Mais si, je suis très bien.
Non.
Et bonjour à toi qui nous écoutes, bienvenue pour cette 7e édition. Je suis Nathan, chargé de projet numérique à Famille Rurale et je suis ton animateur sur la chronique Famille Numérique. Au cours de ces émissions, on sera ensemble durant 15 minutes pour essayer de comprendre les technologies qui nous entourent. Aujourd'hui, nous allons parler musique et plus précisément de la MAO. Je serai accompagné pour cette chronique de Tronche de Cake.
Salut.
FL Studio, Ableton, Cubase, ces mots ne vous parlent sûrement pas, et pourtant, ces logiciels sont utilisés dans la plupart de vos sons préférés, et ça depuis des années, et ça s'appelle la MAO, ou la musique assistée par ordinateur. Alors, c'est quoi? À quoi ça sert? Comment on en fait? Bénédiction ou censure artistique? Bref, zoom sur la MAO, c'est tout de suite. Bienvenue à toi. Pour commencer, j'aurais quelques petites questions sur toi, si t'es ok.
Bah, je suis tout à fait ok, on est là pour ça.
Ok, bah, je te propose de commencer par te présenter.
Eh ben, moi je suis Benjamin, j'ai 37 ans, Tronche de Cake de mon nom de rappeur, TDC pour plus court, et puis voilà.
Ok, super. Et à quel âge du coup es-tu rentré dans l'univers de la musique?
De la musique, en général, assez jeune. J'ai commencé la guitare vers 12-13 ans en autodidacte. J'ai toujours été autodidacte en fait.
Super.
La guitare et le chant à peu près en même temps en fait. Hein. Je chantais avec ma gratte à peu près à l'âge de 12-13 ans. Ouais.
D'accord. Et donc t'as découvert la MAO en même temps ou sinon quand est-ce que c'était et comment?
Ouais, peu de temps après en fait, assez peu de temps après avec le logiciel qui n'était pas vraiment un logiciel de MAO à la base, c'était Guitar Pro 5. C'était un logiciel qui servait à écrire ses propres tablatures en guitare et le logiciel pouvait les jouer et je trouvais ça complètement taré à l'époque. Dac. On pouvait ajouter sa propre batterie, on pouvait ajouter des... Et voilà, les premiers bidouillages entre guillemets musicaux c'était là-dessus. Ouais.
Ok, ok. Et donc pour toi, la musique, c'est combien de temps à peu près, hein, par jour, par semaine ou par mois?
C'est très très variable, étant donné que c'est pas mon métier et que c'est avant tout un plaisir. Je peux geeker des fois sur un son ou sur des sons pendant plusieurs semaines à la suite, ou des fois ne rien faire du tout pendant 3 mois. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai une chaîne Twitch sur laquelle je fais un peu de musique aussi, donc ça me donne une certaine régularité, mais c'est pas des choses construites, c'est plus du délire.
D'accord, ok.
Voilà.
Et donc, pour terminer, est-ce que tu aurais une petite anecdote un peu insolite sur les réseaux sociaux ou le numérique, ou même la MAO à nous mettre sous la dent, hein?
Une anecdote...
Tu peux te lâcher, hein, ça passe juste à la radio.
Ouais. Non, mais une anecdote comme ça sur la musique ou quoi... J'ai rien qui me vient là, je t'avoue. Et y a plein de chaînes YouTube qui font des petites anecdotes sur les enregistrements de groupes et de choses comme ça qui sont très très bien. Une chanson d'addition, je conseille à tout le monde d'aller regarder cette chaîne YouTube. Une chanson d'addition qui a plein d'anecdotes sur plein d'enregistrements de groupes, de choses comme ça, qui est complètement folle.
Ok, donc pour toi c'est un sans faute jusque là.
Ouais.
Ok, maintenant que tu t'es présenté, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que la MAO?
Alors, la MAO, tout simplement, c'est la musique assistée par ordinateur. Comment détailler ça plus? C'est des logiciels, la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle un DAW, ça s'écrit DAW, qui permet de faire de la musique ou d'enregistrer, de mettre des effets, de créer des synthétiseurs. Il y a vraiment tout est possible en fait avec la MAO.
Ok. Et donc une musique entièrement faite en MAO, c'est de la musique ou du coup de la programmation?
Ah, ça c'est un genre de débat à l'heure actuelle, mais je pense que c'est un débat qui revient dans... C'est un débat qui est générationnel, hein. Un petit peu, ouais. Je pense, comme dans au début des fin des années 50, début des années 60, t'as sûrement des musiciens de blues et de jazz qui commençaient à gueuler, à dire « Ouais, c'est quoi la disto sur les guitares, là ouais, on dénature ouais. complètement, machin. » Et aujourd'hui, bah voilà, il y a une génération de musiciens qui partent du principe que la MAO, c'est pas de la musique. Et puis, bah, en fait, la jeunesse, elle s'est complètement appropriée le truc. Pour moi, c'est de la musique. En tout cas.
Ok, d'accord. Du coup, on revient un petit peu sur ton contenu. Mm-hmm. Comment tu utilises la MAO, toi, dans tes sons?
Dans mes sons, je l'utilise de moins en moins. Au début, quand j'ai commencé à rapper, je faisais moi-même mes instrumentales. Donc je composais entièrement les batteries, les synthétiseurs, tout ça, le sample aussi, le sample qui est très utilisé dans le rap.
Donc tout ça sur logiciel.
Tout ça sur logiciel, ouais. Très vite, je me suis rendu compte que j'avais pas un gros niveau, parce qu'après il y a toute une partie quand même mixage qui, ça, du coup, est classique et commun dans toutes les musiques. C'est-à-dire que même si tu enregistres avec des instruments analogiques, tout ça, hein, tu vas être obligé à un moment donné de mixer, de masteriser ton son. Et j'étais pas très très fort pour faire ça, donc aujourd'hui je préfère me concentrer sur mes textes et sous-traiter. Par contre, il m'arrive, et je prends énormément de plaisir à composer des musiques pour des vidéos, pour des amis vidéastes, pour des choses comme ça, composer des jingles, des petits jingles. J'ai plusieurs jingles qui ont tourné sur cette radio d'ailleurs, plusieurs petits jingles comme ça pour des festivals, pour des choses comme ça. J'ai pas mal de copains qui me sollicitent pour ce genre de petits travaux.
Ok, voilà. c'est cool. Et du coup, selon toi, qu'est-ce qu'apporte la MAO à la musique, des temps modernes ?
Ce que ça apporte, déjà, je pense, une accessibilité. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, des cours de musique, c'est cher. On sait que les gens, aujourd'hui, avec des salaires, tu vis bien moins bien que dans les années 80. Donc déjà, aujourd'hui, y a des logiciels qui sont gratuits, puis on va pas se mentir, il y a aussi plein de jeunes qui les craquent, les logiciels, en attendant. Moi d'ailleurs, j'ai commencé sur Ableton, je l'avais craqué, et au bout de tant d'années que j'étais dessus, je me suis dit, allez, bon, je l'achète quand même, parce que t'as toutes les fonctionnalités, t'as tout. Mais je pense que ça apporte énormément de créativité, en fait. C'est que t'as tous les instruments à disposition. T'es là où si tu veux enregistrer un morceau symphonique, faut connaître un orchestre, il faut connaître un studio capable d'enregistrer 60 violons à la fois. Et t'as des synthétiseurs à l'heure d'aujourd'hui qui le font très très bien, et tu peux tout créer toi-même, en fait, comme c'est, directement dans ta tête. Donc ça permet de faire seul des choses qui auraient fallu des moyens monstrueux pour faire il y a quelques années.
Exactement. Et donc là, je prends un des exemples les plus critiqués et qu'on retrouve beaucoup, en fait, c'est l'autotune. Donc l'autotune, ça fait un petit peu débat. On pourrait penser à Joule, PNL. Toi, qu'est-ce que t'en penses ?
Moi, pour moi, c'est un outil, l'autotune. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on cite tout le temps Joule et PNL parce qu'ils utilisent l'autotune réellement comme un effet sur la voix. Mmh. Alors que l'autotune est composé, en fait, de deux choses. Autotune, c'est à la fois un correcteur de pitch, c'est-à-dire quelque chose qui fait que si tu chantes pas exactement juste, ça va te corriger automatiquement. Et un robotiseur, je sais pas comment trop appeler ça, mais quelque chose qui donne ce côté synthétiseur à la voix. C'est un vocodeur, en fait. Autotune, c'est ni plus ni moins qu'un vocodeur. Le vocodeur, ça existe depuis des années. Et c'est utilisé, les gens se rendent pas compte que c'est utilisé depuis... c'est utilisé sur... Même les chanteurs plus classiques, sur lesquels on n'entend pas l'effet synthétiseur, utilise quand même le correcteur de pitch pour remettre les voix d'aplomb. Il y a beaucoup d'ailleurs de vidéos qui tournent sur YouTube avec des enregistrements de grandes stars. Je pense, j'avais entendu une vidéo de Britney Spears qui avait été le lingé son avait fait leaker le son sans autotune. C'était une catastrophe. Il
n'y
avait pas une note de juste et tout, et ça repasse dans autotune. Et pourtant, on cite jamais Britney Spears comme exemple dans l'utilisation de l'autotune. Joule et PNL, eux, ils assument complètement le côté effet synthétiseur de la voix. Ouais. Ils synthétisent. Après, il y a différents degrés. Joule, il le met à fond. PNL, je trouve qu'il l'utilise très bien. Mais c'est des goûts personnels. C'est des goûts personnels.
C'est propre à chacun et ça crée une patte artistique derrière.
Exactement.
Très personnel.
Laylo utilise l'autotune d'une manière très, très, très artistique. Il pense sa voix comme un instrument, en fait. Et du coup, il se sert de l'autotune pour harmoniser tout ça, quoi.
Ok, merci beaucoup pour ces précisions. Maintenant, j'ai un petit test à te faire passer, si t'es chaud.
Allez, on peut tenter.
On va rapidement voir ça, et c'est tout de suite. Alors, je t'ai préparé un petit quiz, juste histoire de vérifier que tu n'es pas un imposteur. Ah. Alors, rien de personnel. Hein. Attention, je te préviens, il y aura des pièges. Est-ce que t'es prêt ?
Allez, on peut tenter.
Alors, le quiz sera divisé en 4 questions. Donc, les deux premières seront sous forme de oui ou de non. Et les deux dernières sous forme de QCM.
Ok.
On commence. Alors, première question. Une intelligence artificielle qui crée une musique... Vrai ou faux ?
Vrai, et j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps, il y a un morceau des Beatles, il y a une intelligence artificielle à qui ils ont fait écouter toute la discographie des Beatles, qui a recréé un morceau, et en plus le morceau est bon, alors c'est pas le meilleur morceau des Beatles, mais ça colle quoi, les harmonies des voix, tout colle avec l'univers des Beatles, la sonorité des guitares, enfin tout, c'est fou.
Et la chanson c'est Daddy's Cars, si vous voulez l'écouter.
Ouais.
Ok, bon bah c'est une première bonne réponse, félicitations. Deuxième question. La MAO a été utilisée pour la première fois pour imiter un chant d'animal. Vrai ou faux?
Je dirais vrai. Ça paraît tellement what the fuck que je dirais vrai, ouais.
Eh bien, c'est faux.
C'est faux?
C'était. J'avais prévenu, il y avait des pièges. Hein.
Ok. Non, mais.
C'est pas grave, on va se rattraper peut-être sur la troisième question.
Ça aurait pu.
Ouais. Donc, la date de l'apparition de la MAO.
Waouh!
Alors, QCM sous forme. Donc, réponse A, 1872. Mm-hmm. Réponse B, 1956. Réponse C, 1984.
Alors, c'est pas 84, ça c'est sûr, c'était bien avant. Il y a un morceau très connu qui est, je perds toujours le nom, mais qui a été d'ailleurs un peu plagié dans le générique de Futurama, pour ceux qui connaissent. Le truc avec les dérapages de. Enfin, il y a des mecs qui bidouillent des bandes depuis très longtemps. 1872, ça m'étonnerait même pas en fait, que déjà dès l'invention de la bande magnétique, qu'on ait commencé à. Après, c'était pas des ordinateurs quoi, c'était des bandes sur lesquelles ils mettaient des effets, tu vois. Mais ça se rapproche de ce qu'on fait aujourd'hui numériquement. Aujourd'hui, c'est juste que les ordinateurs le font plus vite. Donc je dirais 1872, c'est ça que tu disais?
Ouais. Alors 1872 ou 1956.
Ah, je sais pas, 56, je crois que c'est 57 l'invention de la distorsion, il me semble. Allez, je dirais 57.
57?
Ouais.
Alors, 1957.
1957.
Tu crées une réponse?
Ouais, non, pardon, 1956. Ouais.
Eh ben, c'est ça.
C'est ça? Okay.
Ouais. Et on va en venir juste après, la question d'après. Donc, à cette même date, le premier outil de MAO était l'ancêtre du synthétiseur, un calculateur électronique ou un logiciel.
En 57, alors un logiciel en 57, ça m'étonnerait. Un calculateur électronique, pourquoi pas? Et le premier, c'était quoi?
L'ancêtre du synthétiseur.
L'ancêtre du synthé, ouais, je dirais peut-être ça. Le térémin, non? Est-ce que le térémin, est-ce que c'était pas un peu l'ancêtre du synthétiseur?
On se fixe sur l'ancêtre du synthétiseur. Vas-y, je suis désolé. La réponse
c'est
était
pas ça non plus.
Un calculateur électronique. Alors, c'est vrai que ça se rapproche du synthétiseur. Alors, si ça s'appelait Iliac Suite. Donc, en fait, c'est un quatuor à quatre cordes. Mm-hmm. Donc, qui reproduisait un quatuor à quatre cordes. Donc, pour ceux qui savent pas, c'est deux violons, un alto et un violoncelle en général.
Ok, d'accord.
Voilà. Eh bien, je te félicite. T'as eu la moyenne.
Ouais, la moyenne. Ouais. De toute façon,
tu passeras l'année suivante.
Il n'y a pas besoin de. Je rassure tous les auditeurs. S'il y en a qui ne connaissaient pas les réponses non plus, il n'y a pas besoin de connaître l'histoire de la musique pour faire de la musique.
Exactement.
Voilà.
Exactement.
Faites-le, c'est tout.
Bon, pour terminer, maintenant qu'on a bien rigolé, si tu devais résumer trois points de la MAO et de ce qu'on vient de voir, par où est-ce que tu commencerais?
Trois points, c'est-à-dire trois points positifs de la MAO?
Positif, négatif.
Ouais, positif, négatif.
Neutre.
Moi, je dirais l'accessibilité. Vraiment, l'accessibilité, c'est un gros plus. Aujourd'hui, il y a des, je vais dire des gamins, parce que pour moi, c'est des gamins, mais il y a des gars ou des filles, hein, mais qui à 12, 13 ans se mettent sur des logiciels et qui à 15 ans font des tueries, quoi. Je pense notamment, enfin, Skrillex, par exemple, qui a tout pété. Il avait 19 ans, sorti de son premier album, 19 ans. Flume, qui est un génie aussi dans la musique électronique, qui a tout pété à 21 ans. Enfin, c'est des gars qui. Cette accessibilité-là, en fait, elle est super, super importante. Là où ça évite de travailler. Des fois, il y a des gars qui ont passé 20, 30 ans à jouer de la guitare. Ils en jouent très bien, mais ils savent jouer que de la guitare, malheureusement. Tu vois, ils peuvent composer, ils peuvent faire d'autres choses, c'est sûr. Mais la MAO, bah, ça revient au deuxième point, c'est que la MAO, tu peux tout faire, en fait. Tu peux tout faire avec l'envie, quoi.
Ok.
Et en troisième point... J'en sais rien. En troisième point, j'en sais rien. C'était déjà,
on
c'était
pas,
déjà
obligé,
pas mal.
On n'est pas obligé d'aller réponse. Jusqu'au troisième. C'est déjà pas mal. Et si les auditeurs veulent en savoir un petit peu plus sur la MAO, comment et où apprendre à se servir de ces outils, est-ce que tu aurais quelques ressources ou conseils à nous donner?
Conseil, je dirais, toute fa... comme je disais tout à l'heure, YouTube, c'est une source inépuisable. Aujourd'hui, tu veux apprendre le saxophone, tu peux le faire sur YouTube. Tu veux apprendre la MAO, tu peux le faire sur YouTube. Tu peux apprendre le Krav Maga, tu peux le faire sur YouTube. Il y a des cours de tout sur YouTube et gratuitement. Après, le conseil que je pourrais donner, et moi, la lacune que j'ai, aujourd'hui, j'ai 37 ans, et avec le recul, je me dis que j'aurais peut-être dû et que ça m'aurait vachement aidé quand même d'avoir des cours de solfège classique et de connaître, parce que la MAO c'est bien, c'est un bel outil, on peut tout faire. Par contre, dans la composition, vous serez forcément amené à connaître quand même les notes, comment elles fonctionnent entre elles, ce qu'est une septième, une quinte, une, ouais. Et tout ça, bah, tout ça malheureusement c'est pas la MAO qui va vous l'apprendre. Mmh. C'est quand même le solfège traditionnel. Donc, pas de panique, on n'est pas obligé de connaître le solfège pour faire de la MAO, parce que ça peut décourager très facilement le solfège en musique. Mais malgré tout, c'est un plus. Et si on commence la MAO, il faut bien se dire que quelques années après, si on veut vraiment progresser, c'est bien d'avoir ne serait-ce que quelques petites connaissances de solfège et de rythmique musicale.
Et ces petites connaissances qu'on peut acquérir sur Internet aussi.
Aussi, tout à fait en plus.
Bon, eh bien, super. Je te remercie d'avoir répondu à nos questions.
Eh bien, de rien, c'était un plaisir.
Merci à toi de nous avoir écoutés. Tu peux réécouter cette chronique depuis le site de Radio B. On se retrouve le mois prochain, même heure. En attendant, tu peux nous retrouver sur Facebook et YouTube sous le nom de Femmes Viriles et Hommes Sensibles.
Ah, mais c'est tout simplement une hallucination collective.
Votre chronique Famille Numérique présentée par Famille Rurale de l'Ain.
Mais si, je suis très bien.
Non.